L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Est-ce qu'on peut maintenant, on va juste prier, puis on va vraiment se positionner dans la foi pour recevoir ce que Dieu en réserve pour nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Père éternel, oh Saint-Dieu, on te remercie pour ce temps qu'on peut avoir avec toi. On te remercie, Seigneur Jésus, pour la présence de ton Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui est ici, qui fait du ministère. On te remercie parce que non seulement tu fais du ministère ici, mais au-delà de nos quatre murs, Seigneur, on croit en ce moment, lorsque cette parole est proclamée, que des vies qui vont être touchées, Seigneur, à la radio et sur Internet en ce moment, je crois, Seigneur Dieu, que ta parole touche des cœurs, que des gens en ce moment qui ne te connaissent pas ou qui connaissent des choses sur toi, mais aujourd'hui, nous croyons qu'ils vont te connaître, ils vont te rencontrer. Seigneur, on te remercie vraiment pour ton onction. Seigneur, je suis totalement dépendant sur toi, Seigneur. Je prie que tu remplisses ma bouche. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire qui vaut la peine. Mais Seigneur, avec toi, quand on est faible, Seigneur, c'est alors qu'on devient fort. Seigneur, on a besoin de toi dans cette place. On a besoin de la révélation de ton Saint-Esprit. Seigneur Dieu, viens souffler sur mes frères et mes sœurs aujourd'hui. Seigneur Dieu, ceux qui sont encore pris par des glaçons sur leur cœur, ceux qui ont eu le cœur endurci, comme j'ai prêché la semaine passée. Aujourd'hui même, je prie que la chaleur, le feu du Saint-Esprit vienne fondre cette glace maintenant au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui sur les têtes une liberté aussi. Toutes les pensées qui pourraient venir du royaume des ténèbres ou même des pensées humaines, Seigneur, des pensées qui voudraient distraire mes frères et mes sœurs, au nom de Jésus, nous déclarons la liberté maintenant, la liberté dans les pensées, parce que chaque personne peut recevoir ta parole avec un cœur qui reçoit dans un bon terrain. Merci Seigneur Dieu pour ce qu'on va vivre ensemble maintenant. Merci pour cette parole qui libère encore les captifs aujourd'hui. Nous croyons encore dans ta puissance Seigneur Dieu, qui libère les captifs. Et nous t'exaltons aujourd'hui, nous déclarons que Jésus est Seigneur dans cette place. Nous déclarons que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, on a prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Venez avec moi dans Nombre chapitre 9 et le verset 15. Nombre chapitre 9 et le verset 15. Aujourd'hui, on va parler un sujet super important. Le trésor de sa présence. Le trésor de sa présence. Ici, on parle de la présence du Saint-Esprit, qui est pour nous un trésor. Un trésor. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Nombre, chapitre 9, verset 15. Il est écrit dans la parole de vie, version parole de vie. Le jour où on dresse la tente sacrée, le nuage de fumée vient couvrir la tente qui abrite les tablettes de l'Alliance. Le soir, le nuage devient comme du feu. En français courant, ça dit « cette fumée devint lumineuse. Il reste là jusqu'au matin. » Pendant quelques instants, j'aimerais vous inviter à réfléchir. Là. Pensez, recevez par l'Esprit de Dieu cette vision-là. Le peuple de Dieu était toujours rassemblé, quand le peuple de Dieu marchait vraiment dans la volonté de Dieu, ce peuple-là était rassemblé autour de la présence de Dieu. C'était un désir du peuple. On voulait être proche de Dieu. Et le nuage était là de jour. Et puis c'était un signe, le symbole de la présence de Dieu. Le signe de la présence de Dieu. Et le peuple de Dieu suivait le nuage. Le peuple de Dieu suivait le nuage. Et le soir, ce nuage-là, c'était comme un feu. Comme un feu. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que le peuple de Dieu aimait la présence de Dieu et avait ce désir, il voulait suivre le nuage. Et c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Nous devons suivre le nuage de la présence de Dieu. Nous devons aller là où l'Esprit de Dieu nous conduit, frères et sœurs. Amen. On doit suivre le nuage. Gloire à Dieu. Et puis, vous savez, quand on parle de la présence de Dieu, souvent, on a penser, oui, on a la présence de Dieu avec nous parce qu'on est des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, donc la présence de Dieu est là. Et comme on a enseigné les mercredis soirs passés, même si on a la présence de Dieu toujours avec nous parce que nous sommes enfants de Dieu, il y a une différence entre la présence de Dieu qu'on a tout simplement, qu'on connaît, et aussi la présence tangible de Dieu. La présence tangible de Dieu. Et lors des enseignements du mercredi soir, j'enseignais comment on peut vivre la présence de Dieu, même chez le dentiste, n'est-ce pas? Mais on s'entend qu'on vit pas nécessairement la pesanteur de la présence de Dieu chez le dentiste. Mais comme nous sommes ensemble, collectivement, dans une assemblée comme aujourd'hui, comme on est là pour le louer et l'adorer, c'est là où la présence de Dieu descend. Mais on parle ici de la présence tangible de Dieu. Aujourd'hui, on a vécu une touche de Dieu, mais moi, je suis pas satisfait avec ce qu'on a vécu. Amen. Je suis pas satisfait. On a, sur 10, si on peut évaluer ça, on était peut-être rendu à 5 de ce qu'on aurait pu vivre. Amen. Amen. La semaine passée, on a vécu peut-être un 8, un 9. Amen. Je vous le dis, là. Mais pensez-vous que Dieu a changé d'idée un dimanche? Il a dit, ben moi, je pense, aujourd'hui, ça me tente d'aller visiter un vécu à mi-chemin. Je vais me rendre dans le passage. Ils vont sentir un peu ma présence. Puis la semaine prochaine, j'ai le goût d'y aller vraiment, là, tout le kit. Là, j'ai le goût de... Non, savez-vous qui a le goût et qui n'a pas le goût? C'est nous. La présence tangible de Dieu est disponible pour vous, frères et sœurs. Mais la présence de Dieu, ici je parle pas, je me répète, parce que des fois on peut s'imaginer les choses, mais ici je parle de la présence tangible de Dieu, le kabod, la pesanteur de la présence de Dieu. Et moi je crois, comme je prêche, il y en a certains d'entre vous, vous avez soif. Certaines personnes ici, vous voulez plus encore. Donc Dieu va vous rencontrer à votre place de soif. Dieu va vous rencontrer, vous, ceux qui ont soif. Ceux qui n'ont pas soif, ça passe à côté de vous. Il y a des gens qui vivent le réveil et puis sont dans le milieu d'un réveil et ne sont même pas conscients qu'ils sont dans le réveil. Que ça passe à côté d'eux parce qu'ils n'ont pas le discernement spirituel ou ils n'ont pas non plus la soif de Dieu. Ils ont juste l'habitude de l'Église. Ça, c'est une tragédie si on a juste l'habitude de venir à l'Église. Mais ce que Dieu veut, il veut littéralement descendre sur un peuple. D'une façon tangible, où la présence de Dieu vient, littéralement, d'une façon tangible, et vous ressentez la présence de Dieu. C'est une chose, c'est un trésor. Mais Dieu, quand Dieu descend par son esprit comme ça, la façon que ça se produit, c'est toujours en réponse au cri du cœur. Ici, je parle d'un cri du cœur, pas nécessairement juste d'un cri de la voix, là. On peut crier plusieurs choses. Oh, Seigneur, si, Seigneur, ça. Mais c'est le cri du cœur. C'est le cri du cœur que Dieu entend. Amen. C'est le cri du cœur, c'est cette soif, ce désir pour vivre plus de la part de Dieu. Je peux vous dire, je suis déterminé dans mon cœur qu'on va aller de gloire en gloire. Je suis déterminé que la présence de Dieu que je ressens en ce moment sous mon corps, c'est pour vous et il y a personne qui devrait passer à côté de ce que Dieu veut faire pour vous. Vous savez, Dieu veut vous visiter, mais vous devez vouloir également sa visitation. Vous avez besoin de dire, Seigneur, je veux ta visitation. Je veux que tu viennes sur moi. Puis certains vont dire, mais qu'est-ce que ça donne? Une personne qui poserait une question comme ça ne comprend pas Dieu. Mais qu'est-ce que ça donne? Mais qu'est-ce que ça donne quand l'Esprit de Dieu, quand Dieu le Créateur décide de toucher une personne? Mais ça vous change, ça vous transforme, c'est ça que ça donne? Des fois, les problèmes qu'on peut avoir dans nos vies, les défis, tout ça, un moment dans la présence de Dieu, tout est réglé. Dans un instant, dans la présence de Dieu. Vous pouvez passer 10 ans en thérapie et 10 secondes avec Dieu, puis c'est réglé. C'est ça que ça donne, frères et sœurs. Dieu est la source de toutes choses, il est la réponse pour vous. Quand j'étais petit, le nom de mon église, quand j'avais 5 ans, les enfants venaient dans ma remise. Et puis le nom de mon église, c'était « Jésus est la réponse ». Jésus a les réponses. Et c'est encore vrai, ça, aujourd'hui. Plus tard, Jésus est encore la réponse. Vous savez, le Seigneur est votre réponse. Donc, ce qu'on veut, c'est plus de lui. Plus de lui, plus de sa présence. Et puis, si on a ce désir pour plus de Dieu, Dieu va vous rencontrer, frères et sœurs. Dieu va vous rencontrer. Dieu laisse jamais ses enfants dans une soif et dire, ben là, la soif est là, mais Non, Dieu, s'il voit un cœur assoiffé pour lui, Dieu va visiter. Dieu va vous rencontrer. Et les vagues de Dieu vont venir sur vous. Puis, ce que je veux vous encourager aujourd'hui, vous avez besoin de voir au-delà de ce que vous avez déjà connu. Si vous êtes satisfait avec ce que vous avez aujourd'hui, si vous êtes satisfait, bien, gloire à Dieu, mais vous n'irez jamais plus loin. C'est vrai ça. Si on est satisfait avec ce qu'on a vécu jusqu'à présent, on vivra jamais plus que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Mais si on dit, Seigneur, je suis tellement content pour ce que j'ai vécu jusqu'à présent, mais je suis encore dans le désir de vivre plus avec toi. Je veux encore plus, encore plus. Et je peux vous dire, il y en a plus. Il y a du plus pour vous, frères et sœurs. Il y a du plus. Pourquoi je dis ça? Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu surnaturel. Le Dieu du Québec, dans nos églises, c'est un Dieu souvent qui a été juste intellectuel. On a cette Bible-là qu'on peut lire. On peut la lire et la comprendre intellectuellement. Et on peut dire, oh, ça c'est vrai, c'est beau, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est quand on découvre le Dieu de la Bible, on réalise que c'est non seulement vrai, mais c'est une expérience qu'on peut vivre. Ce que Dieu a fait dans le passé, il va le faire encore aujourd'hui, puis il le fait encore. Il le fait encore. Ça, c'est une chose qu'on veut vraiment voir ensemble aujourd'hui. Comprendre que ce Dieu-là qu'on sert, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui est encore à l'œuvre. Et si vous avez soif de lui, vous allez le vivre et l'expérimenter. Je connais un frère et une sœur en Alberta qu'on a beaucoup aimé, Dr. Kabila et Jenny. Si vous êtes là aujourd'hui, ben gloire à Dieu. Mais ce couple-là, lui c'est un docteur, un médecin, un docteur médical, et puis... C'est un couple des Africains. Ils aimaient beaucoup la prière. Quand on était là en Alberta, ils priaient. Et puis, c'était des temps d'intercession dans leur maison. Et une fois, quand je vous parle que notre Dieu, c'est un Dieu surnaturel, une fois comme, je crois que c'était Jenny qui avait vu ça, était en haut des escaliers, les chambres étaient en haut et puis le salon était en bas. Et puis, ce qu'elle a vu dans sa maison, c'était un nuage. Le nuage qui était dans son salon, elle ne pouvait même pas voir les meubles, tellement qu'il y avait un nuage dans sa maison. On va dire, mais qu'est-ce qui se passe là, un nuage? Bien, je viens de vous lire un texte dans la parole de Dieu qui nous parle du nuage de la présence de Dieu, le feu de Dieu. J'ai entendu d'autres témoignages, des personnes qui avaient des conférences sur le feu de Dieu. Quand on parle du feu de Dieu, on parle ici où l'Esprit de Dieu vient purger les choses qui sont en nous, qui ne sont pas de Dieu. Il vient brûler le mauvais, il vient nous purifier. Oui, nous sommes peu dans notre position en Christ, mais dans notre condition, l'Esprit de Dieu a un travail à faire. Et comme on dit, oui, Seigneur Dieu, viens me purifier, viens enlever les mauvais motifs, viens enlever les choses qui ne sont pas pures dans ma vie. Le Seigneur vient dans son feu. Bien, dans des réunions comme ça, ici au Canada, c'était au BC, des gens avaient des temps de prière. Et puis les voisins appelaient les pompiers parce qu'ils voyaient un feu sur la maison. Un feu sur la maison. Puis là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais finalement, le pompier arrive, il n'y a pas de feu. Il frappe à la porte, il dit, j'ai entendu dire qu'il y avait un feu ici. Et puis là, les gens dans l'intercession disent, un feu? Il n'y a pas de feu ici. Mais il y en avait un. Un feu invisible. Mais les voisins pouvaient voir la maison en feu. C'était la présence de Dieu. Et puis, comme ils priaient comme ça ensemble, qu'est-ce qui se passait? Ils ont commencé à sentir littéralement un feu dans leur maison. Et puis au début, la sœur en question était là, elle dit, mais il y a peut-être quelque chose qui brûle dans la maison. Puis elle faisait le tour, elle était allée voir le fourneau. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié sur le four? Puis finalement, non, il y avait absolument rien. C'est juste après qu'ils ont réalisé le nom de notre conférence, c'était le feu de Dieu. Voyez, une des choses, un des problèmes, ça serait de regarder à ces expériences-là et dire, ben c'est ça qu'on veut. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est Dieu. Ce qu'on veut, c'est la présence de Dieu. Et Dieu se manifeste surnaturellement comme il veut. Mais ce qu'on veut, c'est Dieu. On n'est pas à la poursuite d'un nuage, on n'est pas à la poursuite d'un feu, on n'est pas à la poursuite d'aucune manifestation. On a un seul cœur, et c'est la présence de Dieu. C'est dit, Seigneur, c'est toi que je veux dans ma vie. C'est toi que je veux dans l'Église. C'est toi qu'on désire, on soupire après ta présence. Mais quand on a ce cœur-là et ce cri du cœur et ce désir de se rapprocher de Dieu, Dieu va toujours, forcément, il va toujours amener un message de sanctification. Parce que Dieu vient et visite un peuple, mais un peuple qui se lave, un peuple qui veut être pur devant lui. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est important ça, la sanctification. Et à chaque fois qu'il y a eu des réveils, à chaque fois qu'il y a eu des visitations de la part de Dieu, le message qui est prêché, c'est sanctifiez-vous. C'est de se purifier. C'est pas de se sentir mal et se sentir condamné. C'est jamais ça. Des fois, on est là puis on entend peut-être un message puis on dit bien, ça me concerne pas. Mais si ça ne concerne pas, on met pas le chapeau. Mais on met le chapeau si ça nous fait. Amen. Il y a des choses, des fois, que vous allez entendre en passant qui vont être proclamées de cette maison qui ne concernent peut-être même personne dans la maison. Parce que Dieu nous donne accès aujourd'hui, comme dans plusieurs églises où les gens peuvent déclarer la parole de Dieu, mais des fois, c'est pour au-delà des quatre murs ici. Il y a des paroles, des fois, qui vont être prononcées pour des personnes qui sont à la maison. Gloire à Dieu. Et peut-être qu'il y a des choses qui vous concernent totalement. Gloire à Dieu. Mais quand Dieu nous parle, on peut se choquer ou on peut dire, Seigneur, je vais pas me mettre en colère parce que si tu m'avertis, puis si ça me dérange, si j'entends une parole qui me dérange, si ça me dérange, c'est parce que probablement, fort probablement, ça me concerne. Je peux chérir cette chose-là puis dire non, je refuse et je déteste celui qui vient de le proclamer. Je déteste tel prédicateur. Mais en détestant quelqu'un, ça ne vous changera pas. Amen. Même si vous détestez quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, ça changera rien. Mais si on aime Dieu puis on dit Seigneur, fais le ménage dans ma vie. Fais le ménage dans ma vie. Totalement, Seigneur, montre-moi les choses que j'ai à changer. Montre-moi les choses qui doivent quitter ma vie. Des fois, c'est des choses innocentes. Je parlais avec un frère cette semaine qui me disait, moi, là, Dieu m'a montré d'enlever la musique du monde. Bon, est-ce qu'on est légaliste? Puis dire, là, vous écoutez un chant de Céline Dion, admettons. Est-ce que c'est un péché d'écouter un chant d'amour? C'est pas un péché. Mais il y a des gens qui se remplissent toute la semaine puis écoutent juste la musique du monde. Puis après, ils arrivent le dimanche matin puis ils disent, je vis rien, moi. Mais si on baigne tout le temps dans la présence des choses mondaines, on ne crée pas l'atmosphère de la présence de Dieu. Moi, là, il y a personne qui me dit « écoute pas la musique du monde ». Il y a personne. Je me suis jamais fait dire ça par mes parents. Mes parents m'ont toujours laissé libre, mais j'ai aucun désir d'écouter de la musique du monde. Pourquoi? Parce que je ressens pas la présence de Dieu dans la musique du monde. Vous comprenez? Je ressens pas l'onction dans la musique du monde. Est-ce que je parle à des gens réveillés ce matin? Il n'y en a pas d'onction dans la musique du monde. Puis, c'est pas une question que c'est un péché, c'est juste que Dieu a meilleur pour moi. Si je peux écouter la musique saturée de la présence de Dieu, mais je peux créer ce climat-là dans ma vie constamment. Puis dire, Seigneur, c'est ça que je veux vivre. Je veux vivre ta présence, je veux vivre ton onction tout le temps dans ma vie, vous comprenez? C'est ça qu'on veut. On veut dire, Seigneur, je veux m'approcher de toi, Seigneur Dieu. Je veux être proche de ton cœur. Merci, Seigneur Dieu. Donc, la première chose qu'on voulait juste voir ensemble ce matin, c'est que la présence surnaturelle de Dieu est pour aujourd'hui. Et Dieu est en train de faire des choses parmi nous, puis je trouve ça super beau. Vous savez, même des fois, il y a des gens qui partent en voyage, et il y a tellement de connexions surnaturelles dans le monde de l'esprit, qu'on peut même recevoir le message qui est prêché ici, quand vous êtes en visite ailleurs. Puis, j'ai pas demandé la permission, mais notre sœur Josée, elle a texté ma femme l'autre jour, était dans la famille, dans les Laurentides. Et puis, pendant que le pasteur là-bas prêchait un message, elle a reçu le message que pasteur Michael prêchait. Il y a quelques semaines, pasteur Michael, le 23 novembre, avait prêché sur la sainteté. Vous vous rappelez de ce message-là? Amen. Il a prêché sur la sainteté. Et puis, notre sœur Josée, qui est en charge du ministère Super Kid, était dans l'église, puis elle a texté ma femme avec des téléphones là, que j'ai pas. J'ai besoin des cours pour savoir comment faire. Mais elle a texté, elle dit, je ressens que Dieu est en train de nous dire, qu'il nous appelle à la sainteté. Et pourtant, elle est dans une autre église, dans une autre assemblée, et le pasteur prêchait pas là-dessus. Mais là, faut pas lui dire, hein, José, parce qu'il va dire, mais elle écoute pas quand elle vient en visite. Mais elle recevait le message de Dieu pour son église, voyez-vous? Ça, c'est bien. La semaine passée, comme je prêchais, je ressentais des choses. Pasteur Jérémy ressentait la même chose comme lui prêchait à Montréal. La même chose. Je ressentais la présence de Dieu dans mes jambes, puis lui ressentait la même chose. Même heure, même temps, même poste. Mais pas même place. C'est une question d'être connecté spirituellement dans ce que Dieu est en train de faire parmi nous. Mais tout ça, ça commence avec une soif pour Dieu, mais pas juste une soif, c'est de réaliser aussi, savoir la foi que le Dieu de la Bible est vrai. Que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu surnaturel. que c'est un Dieu, oui, on peut lire et étudier des choses, connaître des choses à propos de Dieu, mais on fait fausse route si on ne découvre pas Dieu comme étant notre ami. Notre ami. Vous savez, vous pouvez connaître le premier ministre Harper. Vous pouvez dire, ben je connais, je vois la télévision. Je connais ci et ça de sa vie. Mais c'est de connaître la personne qui fait une différence. C'est là où on arrive à vivre de l'intimité. Vous savez, quand je travaillais en Alberta, je savais quand la fondatrice du Miracle Channel arrivait. Je sentais son parfum. J'étais dans mon bureau et je sentais littéralement le parfum avant qu'elle arrivait. C'est un bon parfum. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Vous pouvez le connaître dans votre tête, mais vous pouvez le connaître aussi dans l'expérience et dire, ça sent comme Dieu. Dieu arrive. Dieu arrive. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui me permet d'expérimenter sa présence aujourd'hui? Bien, ce qu'on va faire ensemble, on va aller dans l'évangile de Luc et le verset 18. J'aimerais qu'on lise ici le récit du jeune homme riche. Amen. Dans Luc chapitre 18, on va commencer au verset 18. Ici, on va voir l'invitation que ce jeune homme riche a reçue de la part de Jésus. Et puis, on va découvrir des choses ici que Dieu veut qu'on apprenne. Mais on se pose la question ce matin, dans le pratique, là, parce que je sais certains d'entre vous vous dites, OK, mais moi, je veux vivre plus de Dieu, je veux vivre sa présence, je veux pas juste le connaître intellectuellement. Et en passant, Dieu n'est pas contre l'intellect, hein? Dieu n'est pas contre l'intelligence parce que Dieu nous dit qu'on doit être renouvelé dans notre intelligence. Donc, notre intelligence, c'est une chose importante. Mais on doit comprendre que Dieu ne se limite pas à l'intelligence juste comme ça. Il veut nous transformer dans notre intelligence, mais il veut aussi qu'on puisse vivre l'expérience à chaque jour d'être dans sa présence. Et puis, comme on se pose la question, mais comment est-ce que je peux vraiment y arriver? Je vais vous montrer, là, je vais vous donner des points ce matin que vous puissiez vraiment dire, OK, c'est ça que j'ai besoin de faire pour vivre l'expérience de Dieu à tous les jours. Parce que c'est possible, c'est pas pour une classe spécifique. Sauf une classe, les amoureux de Dieu. Tout simplement. Amen. Mais ceci dit, c'est pas réservé aux pasteurs, aux diacres, aux anciens, c'est pour chaque personne qui aime Jésus. Luc 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Ici, on voit le jeune homme riche, reconnaissait pas vraiment Jésus pour qui il était, juste bon maître. Mais Jésus souligne, juste Dieu de bon, là. Verset 20, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Verset 21, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Bon, ici on voit, ce jeune homme-là se voyait comme étant quelqu'un de bien, n'est-ce pas? Il marchait dans la loi de Dieu, il respectait ces choses-là. Verset 22. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Va, ah, écoutez, il te manque encore une chose. » Donc, le jeune homme riche lui a fait toutes sortes de bonnes choses, il respectait la loi, et Jésus lui dit, « Il te manque encore une chose. » Juste une chose qui te manque, là. T'as vraiment bien fait les autres choses, mais il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. C'est facile. Remarquez, ça dit, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » On va arrêter là. Poser la question, est-ce que Jésus est contre la richesse? Dieu est contre le fait que nous aimions plus l'argent que lui. C'est ça que Dieu est contre. Dieu est contre l'amour de l'argent. Mais l'argent comme tel, c'est rien de négatif. C'est juste un instrument. C'est juste un moyen d'échange. Amen. Donc, Dieu n'est pas contre l'argent. Et Dieu veut que ses enfants soient bien. Dieu n'aime pas ça quand ses enfants sont des mendiants dans la rue. Dieu nous appelle pas à être des mendiants. Amen. Mais Dieu nous appelle à vivre le shalom de Dieu. Rien de manquant, rien de brisé. Amen. Mais ici, ce qu'on peut voir, il manquait une chose dans la vie de ce jeune homme-là. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Jésus pouvait voir dans sa vie, il y a une idole dans ta vie et c'est le matériel. Le matériel. Et là, en plus, non seulement vends tes choses, distribue-les aux pauvres, mais là ensuite, ce jeune homme-là avait une invitation. Probablement ici, ce jeune homme-là est invité à devenir un apôtre du Seigneur Jésus. Puis, viens et suis-moi. Imaginez, ce jeune homme-là pouvait tout donner de ces choses-là matérielles pour le privilège de vivre la présence de Jésus constamment. L'invitation, viens, puis viens et suis-moi. Mais ce jeune homme-là ne se réjouissait pas de l'invitation. Au contraire, il est devenu triste. Pourquoi? Parce qu'il préférait le matériel à Jésus. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Très riche. C'est triste, ça. L'invitation du Seigneur Jésus lui-même, viens et suis-moi. Et le jeune homme, c'est impossible pour moi de le faire, parce que j'ai trop de richesses. Ça serait trop difficile pour moi de distribuer aux pauvres ces choses-là. J'aime trop mon argent, c'est impossible pour moi. Et puis finalement, ce jeune homme-là se détourne et s'en va, tout triste. Ça, c'est une réaction possible. Et remarquez ce que Jésus a dit. Tu auras un trésor dans les cieux. Non seulement la présence de Dieu dans sa vie, où ce jeune homme-là pouvait être avec Jésus et le suivre, être dans sa compagnie. Il a échangé ça pour le matériel. Et non seulement ça, il a échangé ça contre le trésor dans le ciel. Imaginez, ici, il ne pouvait pas discerner ce que Jésus lui offrait. C'est triste, n'est-ce pas? Pour vivre la présence de Dieu, il faut dire au Seigneur, tu es numéro un dans ma vie. Ce qui compte le plus, peu importe ce que tu vas me dire. Peut-être tu vas me dire de marcher sur mon orgueil pour être dans ta volonté parfaite. Peut-être, Seigneur Jésus, tu vas me dire de donner mes choses aux pauvres. Ce n'est pas nécessairement la même chose pour tout le monde parce que Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît les choses qui ont la première place dans nos vies. Mais cette première place doit revenir uniquement au Seigneur Jésus, vous comprenez? C'est seulement Jésus qui peut avoir cette première place. Venez avec moi maintenant dans Luc 19. Je vais vous lire une deuxième histoire d'une personne riche et on va voir une autre réaction aussi. Luc 19, premier verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville et voici un homme riche appelé Zachée. Vous connaissez l'histoire de Zachée? Chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Donc, on sait Zachée, un homme malhonnête, un publicain, détesté des gens parce que on les percevait toujours, ces publicains-là, comme étant des personnes malhonnêtes qui volaient les gens. Et là, on sait, il voulait voir Jésus, mais il était de petite taille, au verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycamore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Jésus parle à Zachée, ce petit homme-là, qui veut voir Jésus. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Wow! Jésus parle à Zachée. Hey, je vais aller te visiter, je vais te rendre une visite chez toi. Donc, si Jésus offre sa présence à Zachée, Zachée qui voulait le voir, qui avait ce désir à un tel point, il était même prêt à monter dans l'arbre pour le voir. Ça, c'est quelqu'un de radical, n'est-ce pas? Quelqu'un de radical. Quelqu'un qui est là, qui dit, ah, Jésus est de passage, mais oh, je vois rien. Ben, je vais m'en aller, je suis trop court, j'ai mes raisons, pourquoi je peux pas le voir? Là, moi, je suis court, je suis comme si... Non, mais ce jeune homme-là, Zachée, cet homme-là, plutôt, a décidé, je vais monter dans l'arbre, parce que je veux le voir à tout prix, je veux le voir. Et Jésus a vu son désir. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6. Sachez se hâta de descendre et le reçut avec joie. Jésus dit, hey, j'aimerais ça aller faire une saucette chez vous. J'ai le goût d'aller manger du pâté chinois chez vous. Ou une bonne poutine. Et là, on est là, on dit, oui, Jésus, je vais te recevoir avec joie chez nous. Amen. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Encore une fois, les religieux critiquaient Jésus. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça, c'était selon la loi juive, en passant. Donc, immédiatement, Zachée, étant dans la présence de Dieu, du Seigneur Jésus, voulait donner aux pauvres, on lit ici, c'est dit, la moitié de mes biens. Donc, tout de suite, il avait compris le message du shalom de Dieu. Il voulait remettre, il voulait semer, et puis il voulait aussi remettre aux personnes à qui il avait fait du mal, qui avait volé, le quadruple. Amen. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Gloire à Dieu. Donc, si on a vu le contraste entre deux personnes, on voit le contraste entre un jeune homme riche qui a préféré son argent et on voit Zachée qui a préféré la présence de Jésus, qui était prêt à remettre aux pauvres, donner aux pauvres et remettre aux personnes qui l'avaient volé. Aujourd'hui, on peut voir ces deux histoires-là et dire, Seigneur, est-ce que je suis comme Zachée qui veut vraiment ta présence, que je suis prêt à monter dans l'arbre, je suis prêt à te recevoir dans ma maison, je suis prêt à enlever les choses dans ma vie qui t'empêchent vraiment d'être mon invité dans ma vie. Parce que vous savez, le Seigneur, lorsqu'il est venu dans nos vies, le Saint-Esprit est venu nous habiter, mais pas juste pour être là, une petite mèche, comme un petit briquet, là. Non, mais l'Esprit de Dieu est là pour qu'on soit vraiment son habitation. Vous comprenez? Pour que l'Esprit de Dieu vienne, non seulement en nous, mais sur nous, dans sa présence. Amen. Mais il faut le recevoir et il faut enlever toute chose qui pourrait faire en sorte que Jésus soit le numéro 2. Parce que, en fait, Jésus ne sera jamais numéro 2. On peut lui offrir la position numéro 2, mais Jésus n'accepte pas la position numéro 2. Vous comprenez? Donc, le premier point, si vous écrivez des notes, nous devons valoriser par-dessus tout la présence de Dieu. C'est simple, c'est rien de compliqué ce matin, mais on doit valoriser par-dessus tout la présence de Dieu. Dans Matthieu 5, 6, ça dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, faim et soif des choses du Seigneur, car ils seront rassasiés. » Si vous avez faim et soif pour le Seigneur, vous serez rassasiés. Amen. Dans Luc 12, 34, « Car là où est ton trésor, là aussi sera votre cœur. » Si j'aime Dieu, je vais préférer Dieu à toute autre chose. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je peux vous mettre en garde également que ce désir pour Dieu n'est pas nécessairement très populaire parce qu'il va y avoir un prix. Il y a un prix pour la présence de Dieu. Il y a un prix, certainement. Si on veut vivre la présence de Dieu individuellement, il va y avoir un prix de consécration. Si on parle d'un temps de prière, un temps à la recherche de la présence de Dieu, puis en même temps, on va vouloir mettre de côté les choses qui pourraient nuire à la présence de Dieu dans nos vies. Dans le sens, si on est conscient que l'Esprit de Dieu est avec nous, sur nous, en nous, dès qu'une chose qui veut intervenir dans nos vies, qui voudrait nous bloquer ou éloigner l'Esprit de Dieu, la présence tangible, on va tout de suite dire, OK, ça, j'accepte pas que cette chose entre dans le climat dans lequel je vis. Vous comprenez? C'est qu'on va dans cette place où on va dire, OK, je veux protéger, en fait, ma relation avec Dieu. Je veux vraiment protéger l'intimité que je vis avec Dieu. Vous savez, il y a quelque temps, on avait invité un humoriste ici. Vous étiez là, sûrement. On avait invité un humoriste qui était venu une soirée. C'est le département des arts qui avait organisé cette belle soirée-là. C'est très bien. Et puis, c'est une soirée où on pouvait inviter des inconvertis pour qu'ils découvrent un peu c'est quoi la vie chrétienne et tout ça. Et c'était des jokes, tout ça, des farces pour divertir. Et puis, c'était bien, il n'y avait pas de problème avec ça. Mais pendant cette soirée, j'ai vu cette place pratiquement pleine à craquer. Et puis, j'étais assis en arrière, moi. Et puis, j'étais là et j'ai vu ça, c'est le climat spirituel de l'Église. C'est pas mal d'avoir un humoriste chrétien, là, un samedi soir ou un vendredi soir. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est un divertissement, puis on pouvait utiliser ça pour inviter des inconvertis. Mais je voyais les gens sont attirés par le divertissement, mais quand c'est le temps de la prière, on ne retrouve pas ces mêmes personnes-là. Et on se dit, mais ça, c'est le climat spirituel. La majorité des gens ne poursuivent pas la présence de Dieu. Donc, si vous allez vivre la présence de Dieu, vous allez devenir un peu marginal, frères et sœurs. Vous allez devenir différent. Je veux vous avertir. Je veux même faire la publicité de cette chose-là. Si vous voulez vivre la présence de Dieu, vous devez vous attendre à ce que vous allez être un peu différent. Dans le sens que vous allez tellement vouloir protéger ce que vous vivez avec Dieu. Si on parle de la foule en général, la foule qu'on a eue, qui voulait venir entendre l'humoriste, et c'est super. Mais faites attention à ce que dit la foule. Dans Nombre 14, la foule, à cause des gens, votait contre l'entrée dans la terre promise. La foule disait, non, on peut pas rentrer dans la terre promise. Nous sommes, eux sont trop nombreux, et puis on est comme des sauterelles. Dans Jean 6, 15, la foule voulait couronner Jésus et devancer le temps de Dieu. La foule ne veut pas attendre et payer le prix, frères et sœurs. Dans Jean 6, 26, la foule voulait suivre Jésus pour les bénéfices, pour le pain. Je veux être là pour le pain. La foule veut Jésus pour les bénéfices. Luc 4, 29, la foule voulait précipiter Jésus en bas d'une montagne. Quelque chose. On veut le couronner roi. Mais là, après, finalement, non, on veut le précipiter en bas d'une montagne. Ça, c'est la foule. Dans Jean 19, 6, la foule voulait crucifier Jésus. Crucifie-le! Ça, c'était l'opinion de la foule. Acte 4, 18, la foule défendait de prêcher aux apôtres le nom de Jésus. Non, vous n'avez pas le droit de prêcher dans ce nom-là. Et dans Acte 14, 5, la foule voulait lapider l'apôtre Paul. La foule dira quelque chose et la foule va avoir un désir. Mais la majorité du temps, la majorité des gens ne veulent pas la présence de Dieu. La majorité du temps, la majorité des gens ne veulent pas la présence de Dieu. Donc, si nous voulons la présence de Dieu, nous serons différents. Amen. Donc, première chose qu'on a vue ce matin, il faut valoriser par-dessus tout la présence de Dieu. Je pourrais arrêter là. Mais j'ai d'autres notes. Mais voulez-vous la présence de Dieu dans vos vies? Voulez-vous vraiment expérimenter et ne pas être comme ce jeune homme riche-là qui dit « Non, je préfère autre chose que toi, Seigneur. » Mais si je dis « Non, Seigneur, je veux toi. C'est toi que je veux. Je veux vivre ta présence. » Dieu voit ce cœur-là. Et pour vivre vraiment la présence de Dieu, des fois, on va devoir s'humilier devant Dieu. Ah, mais c'est bien ça. C'est bien, on doit s'humilier devant Dieu. Mais des fois, ça va nous coûter de l'orgueil. Il y a des choses qu'on va devoir faire pour vivre pleinement la présence de Dieu. Puis c'est correct. Amen. C'est correct. Deuxième chose qu'on veut faire, c'est accueillir le Saint-Esprit. Donc, on désire Jésus, on désire sa présence. Et là, il faut savoir l'accueillir. Il faut accueillir le Saint-Esprit parmi nous, dans nos vies. Il faut l'accueillir. Dans le psaume 134 et le verset 2, dans la Bible du Semeur, nous lisons « Levez vos mains vers le lieu saint pour louer l'Éternel. » Imaginez, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Je lève une main. Ça me fait pas mal du tout. J'ai aucun symptôme de maladie là-dedans. J'ai pas mal. Ici, c'est un signe d'abandon. Je lève la main et je m'abandonne. Et je dis, Seigneur, je t'accueille. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, je t'accueille. Levez la main. C'est dans la Bible, mais pourtant, souvent, des fois, les gens peuvent être gênés de faire ça. Ça, c'est l'intimidation. C'est le diable qui veut vous intimider. Parce que lorsque vous levez la main, vous dites, mais qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va faire? Vous allez mettre de côté votre orgueil et vous allez mettre de côté l'esprit d'intimidation qui dit, non, fais pas ça. Vous dites, non, peu importe ce que toi tu me dis, tu essaies de m'intimider, je lève ma main, mes mains, et je m'abandonne et je dis, Seigneur, je t'accueille. Je t'accueille dans cette place. Je t'accueille, viens. C'est simple, mais c'est des choses des fois qu'on a peur de faire. 1 Timothée 2,8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. C'est d'élever les mains pures vers le Seigneur, mais aussi ça dit sans colère ni mauvaise pensée. Quelqu'un qui est rempli de colère, et qu'il y a toutes sortes de mauvaises pensées, des pensées de jugement, des pensées qui vont déplaire à Dieu, cette personne-là ne ressentira pas la présence de Dieu parce que la personne n'élève pas des mains pures, mais des mains sales que Dieu ne peut pas recevoir. Vous comprenez? Des mains sales de péché, c'est pas les mains que Dieu veut recevoir. Mais si on s'humilie devant le Seigneur, puis on dit, Seigneur, pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi, je m'abandonne en tes mains. Je te demande de purifier ma vie. C'est alors qu'on peut lever les mains pures et dire, Seigneur, je m'abandonne en tes mains. Dans Éphésiens 4:30, nous lisons, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu vous dit, vous devez abandonner certaines choses dans vos vies, bien, repentez-vous et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. Donc, on veut accueillir l'Esprit de Dieu et c'est assez simple. C'est rien de compliqué. Dieu, là, c'est un Dieu merveilleux et puis il veut nous dire comment faire. Il veut nous visiter par son Saint-Esprit. Mais ce qu'on doit vouloir, premièrement, c'est qu'il vienne. C'est juste ça. Seigneur, je veux que tu viennes. Si vous voulez avoir de la visite, typiquement, vous allez prendre le téléphone et vous allez inviter quelqu'un chez vous, n'est-ce pas? Et c'est ça. Dieu entend le cri du cœur. Vous ne prendrez pas le téléphone, mais vous avez dit, Seigneur, je veux t'avoir dans ma vie. Mais Dieu vient quand il est le bienvenu. Et quand on l'accueille, et c'est sa façon, on l'accueille, c'est comme ça. On ne baisse pas les mains en bas parce que Dieu n'est pas en enfer. Hein? C'est pas, on sait que ce n'est pas son domaine, c'est ça que je veux dire. Mais on sait que le Seigneur est au ciel, son trône est au ciel, mais sa présence descend sur nous. Et le Saint-Esprit qui est là avec nous, va se sentir le bienvenu parmi nous. Vous comprenez? C'est quelque chose de simple. Simple, simple, simple. Et troisième point. 1, 2, 3. Facile, hein? Ayez un cœur entièrement abandonné. Entièrement abandonné. Un cœur entièrement abandonné entre les mains de Dieu. Et pas à moitié abandonné. Ça n'existe pas, ça. Un cœur entièrement abandonné entre les mains de Dieu. Ici, un texte, ça m'a beaucoup parlé, dans Jean 14, 30. Jésus dit, le prince du monde vient, il n'y a rien en moi. Rien en moi. Jésus pouvait dire, le diable n'a rien en moi. Il n'y a rien. Il n'y a aucune emprise dans ma vie. Il n'y a absolument rien en moi. Si, par exemple, je retiens des choses en moi que Dieu m'a dit de délaisser, par exemple, peut-être l'avarice. J'ai parlé au début de l'argent, là. Le jeune homme riche qui préférait son argent ou le matériel. Mais si j'aime mieux mon argent que Jésus, Jésus le sait. Si je préfère mon orgueil parce que Dieu me dit, humilie-toi dans telle situation, humilie-toi. Abandonne l'orgueil et tu vas recevoir ma présence comme jamais auparavant. Si c'est ça, faut que je sois capable de dire comme Jésus, Il n'y a rien en moi. Satan, rien en moi. Je me suis débarrassé de ça, l'orgueil. Peut-être c'est aussi relié à l'orgueil, mais les apparences. Peut-être je suis préoccupé aux apparences. Qu'est-ce que les gens vont dire si je m'abandonne vraiment entre les mains de Dieu? Qu'est-ce que les gens vont dire? Peut-être je dois mettre sur l'autel mon ambition personnelle. Peut-être moi, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et Dieu me dit, remets-moi ça entre mes mains. Peut-être c'est mon ambition personnelle. Des mauvaises priorités, peut-être. Peut-être c'est de l'amertume. Peut-être vous avez été blessé, vous avez retenu de l'amertume, vous avez de l'amertume dans votre cœur. Comprenez ceci. L'amertume, la haine, le non-pardon, toutes ces choses-là. Vous pouvez conserver ces choses-là si vous voulez. Vous pouvez conserver ces choses-là dans vos cœurs. Mais le prix va être la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la présence tangible de Dieu dans vos vies et retenir la haine dans votre cœur. Vous comprenez? Dieu vous dit, vous voulez vivre pleinement ma présence tangible. Mais vous devez être prêt à tout relâcher. Vous devez être prêt à tout relâcher. L'orgueil, toutes ces choses-là, tout relâcher. L'amertume, il faut que je sois capable de dire comme Jésus, Satan, rien en moi. Il n'y a rien. Parce que j'ai tout abandonné. J'ai tout abandonné. J'ai tout abandonné. Si je chéris, je retiens ces choses-là, je les échange littéralement contre la présence de Dieu. Et on devient comme ce jeune homme-là, riche. On devient triste dans notre expérience chrétienne. Et puis, il y a des gens aussi dans cette place ce matin, et même sur Internet, à la radio, vous avez fait des vœux secrets intérieurs. Vous avez fait des vœux secrets, vous avez dit, « Non, moi, je ne ferai plus jamais ceci, je ne ferai plus jamais cela. » Vous avez fait des vœux. Et Dieu a entendu vos vœux et vous avez été liés par vos vœux. Et Dieu vous dit, repentez-vous de ces vœux-là. Un enfant de Dieu ne dit jamais à Dieu, je ne ferai jamais ceci ou je ne ferai jamais cela. Un enfant de Dieu dit, je vais faire toujours la volonté de Dieu. On échange le jamais pour toujours, la volonté de Dieu. Un vœu intérieur, moi je ne ferai jamais ça, là. Plus jamais de la vie que je vais faire ça. Vous échangez votre volonté pour la présence de Dieu. Je vous dis, frères et sœurs, ce n'est pas pour me faire haïr ce matin que je vous dis ça. Mais faites attention, les gens qui ont fait des vœux intérieurs, des vœux secrets, c'est des gens typiquement qui ne vivent pas la présence de Dieu. Et leur cœur est rendu endurci parce qu'ils ont décidé qu'ils étaient pour faire comme ils voulaient. Ils ont échangé la volonté de Dieu pour leur volonté. Amen. Il y en a qui vont dire, ben, peu importe ce que Dieu me dira, j'ai mon idée de fête. Je vais faire ce que je veux. Oui, vous allez faire ce que vous voulez. Mais le prix, ça va être la présence de Dieu. Je dois vous lire un autre texte. Proverbe 6, vous pouvez venir avec moi. Proverbe 6, on va aller au verset 16. Ce matin, je vais essayer de terminer bientôt par la grâce de Dieu. Mais on veut vivre la présence de Dieu. Amen. Je suis loin d'avoir fini, mais on va voir ce qu'on va faire. Proverbe 6, verset 16, dans la Bible du Sommeur, verset 16. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut. Ou dans Louis II, ça dit les yeux hautains. C'est la première chose qu'on voit ici dans la liste. Ensuite, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre des frères. Dieu déteste ces choses-là. Mais la première chose qu'on voit, ce que Dieu en a en horreur, les yeux qui regardent les autres de haut, les yeux hautains. Remarquez ça. En fait, ça, c'est quand je crois que je suis quelqu'un. Quand je crois, moi, je suis quelqu'un. Je suis un quelqu'un. Et puis, si je pense que je suis arrivé, je suis arrivé, moi, là, telle place dans ma vie et je suis fier. C'est là où la présence de Dieu quitte nos vies. Je parle de la présence tangible de Dieu. La présence tangible. L'arrogance, ça repousse la présence de Dieu. Ce qui attire la présence de Dieu, c'est de réaliser que sans lui, on ne peut rien faire. C'est de réaliser qu'on n'est absolument rien. Mais à cause de lui, nous devenons un quelqu'un. Et c'est un quelqu'un en Christ. Un quelqu'un en Christ. Amen. Je pense que c'est mon dernier point. Croyez que la connaissance intellectuelle ne suffit pas. Certains s'imaginent connaître Dieu intimement parce qu'ils connaissent bien la Bible intellectuellement. Mais un ami de Dieu le connaît parce qu'il a passé du temps avec lui. Un ami de Dieu, c'est un ami qui ne connaît pas juste des faits sur Dieu. Mais il connaît quand Dieu arrive, il sait aussi discerner quand Dieu n'est pas là. Un ami de Dieu est quelqu'un de proche de Dieu. Il ressent sa présence. Il connaît quand son cœur est attristé. Quand quelqu'un chante un chant, admettons, celui qui est un ami de Dieu va savoir quand la personne chante pour glorifier Dieu ou pour se glorifier. Un ami de Dieu va avoir la sensibilité et l'Esprit de Dieu va lui communiquer son cœur constamment. Mais on doit croire que la connaissance intellectuelle sur Dieu ne suffit pas. La soif pour Dieu, c'est dire au-delà de l'intellect, j'ai besoin de vivre spirituellement cette relation avec Dieu. Gloire à Dieu. Puis, ce qu'on va vivre ensemble, et ce qu'on commence à vivre, peut-être certaines personnes d'entre vous, des fois, vous posez des questions, mais qu'est-ce qui se passe à EVQ? On est sur la table d'opération, comme le frère, le pasteur Ruland a dit. On est sur la table d'opération. Dieu est en train de travailler par son esprit. Puis je me réjouis de ça. Je reçois plusieurs courriels de personnes qui vivent des percées dans leur vie. Jamais auparavant. Ils n'ont jamais vécu ces choses-là. Mais là, tout d'un coup, l'esprit de Dieu est en train de faire des choses dans les vies. Puis c'est merveilleux. Je vais juste vous lire une chose pour vous aider à comprendre peut-être. Venez avec moi dans Actes 2, verset 15. Quand la présence de Dieu descend, vous allez vivre des choses tangibles sur votre corps, dans votre vie. La nuit, peut-être, vous allez avoir des rêves. De plus en plus, les gens me disent qu'ils reçoivent des rêves prophétiques. Dieu est en train de faire des choses. Et si vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des fois, on peut avoir une perspective humaine. Mais dans Actes 2, verset 15, ici, Pierre a dit, « Ces gens ne sont pas ivres. » comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. On pourrait continuer. Mais c'est juste tout à fait normal et biblique. Ce que Dieu est en train de faire. Puis on dit gloire à Dieu. Mais certaines personnes, puis je vais essayer de terminer avec ça. Peut-être vous êtes là puis vous dites, OK, mais moi j'ai toujours compris certaines choses d'une certaine manière. Et vivre la présence de Dieu, moi je n'avais jamais vraiment entendu parler qu'on pouvait littéralement vivre la présence de Dieu d'une façon tangible. Donc je n'avais pas vraiment ce désir-là parce que je ne savais pas qu'on pouvait vraiment vivre ça. Mais oui, vous pouvez littéralement vivre la présence de Dieu dans votre demeure. Comme je vous ai partagé l'histoire du docteur Kabila, où le nuage de Dieu vient. Ça peut être de toutes sortes de façons, mais vraiment d'une façon tangible où vous ressentez la présence de Dieu. Puis vous dites, mais qu'est-ce que ça donne? Comme j'ai expliqué, ça donne que votre vie est transformée. Ça donne que vous êtes sensible à sa présence et vous voulez demeurer sur le chemin de la sainteté parce que vous ne voulez pas attrister l'Esprit de Dieu qui est en vous. Puis vous ne voulez pas non plus que sa présence quitte votre vie. Je parle ici de la présence tangible. Je vais terminer avec ceci. Deutéronome 29. Je vais vous enseigner toutes sortes de choses concernant la présence de Dieu. Et puis, il y a des gens peut-être qui vont dire, je suis pas sûr que je crois ça. Je ne suis pas sûr que la présence de Dieu peut agir ou faire telle ou telle chose. Une des choses qu'on veut établir ce matin, c'est qu'on ne veut jamais argumenter la présence de Dieu. On ne veut jamais dire, ben, savez-vous pourquoi? Je vous donne un verset, Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. En fait, ici on parle d'un principe de révélation. Quand l'Esprit de Dieu se révèle à vous, personnellement, intimement, c'est révélé et ça vous appartient. C'est votre révélation. Il y a des gens qui ne recevront jamais la révélation. Il ne faut pas s'argumenter, il faut laisser l'Esprit de Dieu faire ce qu'il y a à faire. Amen. Donc, si je veux vivre la présence de Dieu dans ma vie de plus en plus, ce que je veux faire, c'est que je veux vraiment avoir ce désir pour sa présence. Je veux désirer, plus que toute autre chose, sa présence. Et en même temps, je veux accueillir son Esprit Saint. Mais Dieu, l'Esprit de Dieu, ne vient pas cohabiter dans le péché. Notre Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Sauf que je dois faire ce que Dieu nous dit de faire, laver nos mains. Amen. On lave nos mains et on lève les mains pures, puis on dit, Seigneur, je t'accueille. Amen. Gloire à Dieu. Et là, je comprends que mon intellect ne suffira jamais. Et si je suis satisfait avec ce que j'ai connu de Dieu dans ma tête, je n'irai jamais plus loin que ce que j'ai connu dans ma tête. Mais si j'ai cette soif, watch out. Amen. La présence de Dieu est pour vous, la présence de Dieu est pour moi, la présence de Dieu est pour chaque personne dans cette place. Si on désire la vivre. Gloire à Dieu. Maintenant, vous allez pouvoir accueillir l'Esprit de Dieu dans cette place. Puis vous pourrez m'envoyer des courriels et me raconter ce que l'Esprit de Dieu va vous faire dans vos vies. Croyez-vous que Dieu va vraiment faire des choses dans vos vies? Moi, j'aime ça des témoignages où l'Esprit de Dieu a fait des choses d'une façon instantanée. Ça, c'est merveilleux. Instantanément, le Seigneur de Dieu, l'Esprit de Dieu vient faire quelque chose. C'est glorieux. Amen. Oui, si vous n'avez jamais vraiment cédé votre vie à Jésus, c'est le temps maintenant. Pourquoi attendre? Pour remettre à demain. Ce que vous pouvez faire maintenant, vous ne savez pas si demain est là pour vous, si demain vous attend, mais aujourd'hui vous êtes là. Je vais vous demander si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, levez la main maintenant. Levez votre main, je prie avec vous. C'est pas compliqué. Amen. Si à la radio, sur l'Internet, vous n'avez jamais vraiment donné votre vie à Jésus, il vous attend avec les bras tout grands ouverts. Il vous aime. Il vous reçoit. Vous avez juste à dire, je te donne ma vie, Jésus. Je te donne ma vie. Prends ma vie. Purifie-moi. Lave-moi. Fais de moi un membre de la famille de Dieu. Il vous reçoit aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur Dieu. Nous chérissons ta présence, Seigneur. Nous chérissons, Seigneur Dieu, ta présence. Nous chérissons, Seigneur Dieu, ta présence. Nous chérissons, Seigneur, ta présence. Nous voulons plus de toi. Plus de toi. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je déclare sur chaque tête ce qui appartient à chaque enfant, ton shalom. Je le déclare, Seigneur, le shalom qui vient de toi. Rien de manquant en toi, rien de brisé dans ton royaume. Ton shalom, je le déclare aujourd'hui sur les têtes de mes frères et de mes sœurs. Amen et amen. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis. À mercredi soir. Amen. Soyez bénis. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.